Oui, bonjour, je suis africaine. Je suis étonnée par le manque de réaction qu'a suscité l'émission d'hier et celle d'aujourd'hui sur le forum de Bamako. Je suis un peu surprise par le mutisme des auditeurs de la base si j'y suis, ce qui n'est pas d'habitude leur cas, je comprends pas. Il faudrait que les Français sachent que ce qui se joue en Afrique actuellement de la part des dirigeants français se joue en leur nom. Quand ils agissent en Afrique, ils agissent en leur nom et qu'ils sachent que les retombées, ce sera sur eux, hein, pas sur ces dirigeants-là. Donc qu'ils le sachent, parce que nous, Africains qui vivons avec eux, on est solidaires de l'Afrique. On est solidaires de la souffrance de ceux qui sont là-bas. On la vit avec eux. Il faudrait que les Français se bougent, qu'ils réagissent afin que cette situation-là change, car les Africains ne peuvent pas seuls changer cette situation-là. Merci, au revoir.
Je m'appelle Leïla, je suis étudiante marocaine à Nantes. Et je viens d'écouter ton émission de ce qui se passe à Bamako. Et je voudrais juste dire que je confirme que tout ce qui a été dit donc, lors de cette émission sur le sort des migrants africains en terre marocaine est absolument vrai. Et je répète, absolument vrai. Et je peux te dire que les autorités policières marocaines qui verrouillent littéralement le pays... Et je l'ai vu, hein, je suis marocaine, je vais souvent au Maroc, je peux te le dire, maltraite et brutalise et à l'occasion exploite sexuellement des hommes et des femmes qui se retrouvent bien malgré eux sur le territoire marocain en attente de, comment dire, d'une éventuelle délivrance. Et je voudrais dire aussi que les rares velléités de solidarité envers ces migrants sont systématiquement réprimés par les forces de l'ordre. Et il faut ajouter aussi que cette solidarité ne vient pas de la bourgeoisie qui est complètement vérolée au Maroc, mais vient de petites gens qui sont eux-mêmes miséreux, et qui n'ont rien eux-mêmes, mais qui souvent compatissent face à la détresse de leurs frères et de leurs sœurs africains. Voilà. Je tenais à insister là-dessus parce que c'est effectivement un point important parce que le Maroc tente sans arrêt de faire taire ses voix discordantes sur ce qui se passe sur son sol. Mais moi, en tant que Marocaine, je peux dire que je le sais, que je l'ai vu et que c'est la vérité. Et qu'il faut absolument que les forces démocratiques marocaines se mobilisent pour que tout cela cesse. Voilà. Merci Daniel et puis merci à toute ton équipe pour tes émissions qui sont salutaires.
Alors pour les gens qui n'ont pas la possibilité d'aller sur internet ou d'avoir un iPod ou ce genre de choses, il existe la possibilité de faire des CD. Par exemple, moi je vais dans un café, alors c'est pas un repère de la base si j'y suis, mais en tout cas c'est un repère de gens, et puis dans ce café, y a des gens qui n'ont pas d'ordinateur. Alors voilà, on fait des CD. Et puis on enregistre. Alors c'est moins bien que le direct, mais en tout cas, ça permet de continuer à écouter. Ciao.
J'étais sur la route, je mettais de l'essence dans la voiture quand j'ai lu un graffiti où il était écrit ceci, que quand tu auras dépeuplé les forêts, quand tu auras épuisé toutes les ressources des peuples, quand tu te seras approprié toutes ces richesses, et que quand tu auras laissé toute la terre épuisée, eh bien tu ne pourras pas manger ton argent. Au revoir.
Et oui, bien sûr, ça c'est... faut bien souligner que c'est très difficile de manger de l'argent. Ça paraît une petite provocation, une petite femme, mais quand même, ça éclaire d'une manière très... d'une lumière très brutale ce qui se passe entre l'Afrique et nous, pour ne prendre que cette frontière entre l'Europe et le reste du monde. Cette frontière, elle a été commémorée il y a quelques jours à Bamako avec un forum, le forum des migrants ou le forum pour un autre Mali, peu importe. Il s'agissait d'abord de célébrer les morts de Ceuta et de Melilla, c'est-à-dire ces migrants africains qui poussés par la misère, parfois même par la famine, essayent de venir faire la vie, comme on dit, essayer de vivre moins mal en Europe. et qui ont toutes les difficultés que vous connaissez, tant les images atroces se multiplient sur les frontières, sur les côtes. Et là, eh bien, en septembre 2005, c'est une série de migrants comme ça ont été, on peut dire fusillés, en tous les cas abattus par les balles de la police espagnole. C'est ces victimes qui étaient célébrées à Bamako, mais pas seulement évidemment, ça a été l'occasion de réflexion, de témoignages, et nous y étions plutôt, Antoine Chao, de là-bas si j'y suis, y était, et aujourd'hui c'est le troisième volet, troisième heure de ce reportage qui nous concerne, c'est pas une affaire qui se passe très loin, et puis nous, avec nos pleins de commisération et de compassion et d'intérêt pour le reste du monde, nous allons tremper une oreille dans cette misère. Pas du tout. Ça, il y a un lien direct, étroit, entre cette Afrique noire et nous, et nos quartiers, par exemple, dont il est grandement question aujourd'hui dans l'actualité. C'est jusqu'à 18h et c'est là-bas si j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
En 2007, j'ai voté Sarkozy pour pas avoir à voter Le Pen. Et en 2007, je vais aussi voter Royal pour ne pas avoir à voter Sarkozy. Le seul problème, c'est que j'aimerais bien voter à gauche en 2007.
Salut Daniel, salut à tous les amis de là-bas si j'y suis. C'est pour vous signaler que le mardi 24 octobre se tiendra la prochaine réunion du repère de là-bas si j'y suis à Morlaix, au Tempo, au Café Le Tempo, à 20h30. Donc tous les amis de là-bas si j'y suis, repère mardi 24, 20h30 au Tempo, à Morlaix. Voilà, allez, Kenavo, bonne nuit à tous, ciao.
Oui, bonjour Daniel. Bon, mais j'écoute l'émission et en même temps j'ai envie de passer ce message. C'est le 70e anniversaire des Brigades internationales et à cette occasion, à La Ciotat, est organisé mardi 24 à 18h15 à la Maison des Associations un hommage à ces combattants qui ont tout laissé tomber pour aller soutenir la République espagnole. Et disons que cet hommage-là, nous le rendrons mardi soir. Venez nombreux, nous vous accueillerons très volontiers. Merci beaucoup, au revoir et bon courage.
Salut là-bas, c'est un pauvre sous-traitant toulousain qui travaille pour Airbus et qui remercie les managers qui se sont succédés à la tête d'Airbus et qui vont mettre Airbus et qui ont mis Airbus dans une situation vraiment dure. Et qui va payer la note? Qui va payer la note? Les pauvres sous-traitants qui vont se retrouver au chômage. Et qui va payer le chômage de ces sous-traitants? Eh bien, les pauvres connards de Français qui sont les otages de ces super patrons qui, soit dit en passant, sont partis cette entreprise en faisant des méga super plus-values sur le dos des gens qui fabriquent ces putains d'avions. Voilà, ciao.
Je peux témoigner, je sais, je peux témoigner pour le moment que j'ai vu mourir dans le désert lorsque nous quittions du Niger pour Tamaracet. C'était un Guinéen. Et au Maroc, je peux témoigner, il y a beaucoup de gars qui ont été enterrés par les gardes dans la forêt du Maroc. Je peux le témoigner.
Et maintenant, qu'entendons-nous? Au lieu de se sentir interpellé par ce qui s'est passé il y a un an.
Voici Ceuta, enclave espagnole en territoire marocain. À droite, le Maroc, à gauche, l'Espagne. Entre les deux, 8 km de barbelés, de caméras, de miradors. La forteresse européenne est bien gardée.
On en a marre, je crois que vraiment, toutes ces manigances qui sont que des défaires, je crois qu'on va se révolter.
C'est pas parce qu'il fait chaud qu'il faut s'énerver.
Les ministres de l'intérieur des pays riches d'Europe décident de verrouiller davantage ses frontières et sont prêts à récompenser les dirigeants africains qui acceptent de surveiller leurs propres ressortissants.
Nous partons en Europe parce que nous n'avons pas la place dans la société. Si nous avons la place dans la société, pourquoi aller en Europe?
Ça Salut, c'est là-bas, j'y suis, Daniel Mermet, avec Antoine Chao, Forum à Bamako.
Flight number 2, arriving from...
Les hommes noirs ont des oreilles. Les hommes noirs ont des yeux. Et avec ses yeux, par exemple, ils regardent la télé. Avec ses oreilles, par exemple, ils écoutent la radio. Et ils savent, ça peut paraître curieux à certains, ils savent ce qui se passe dans le monde. Que ces hommes noirs soient à Bamako, à Niamey, à Addis Abeba ou au Blanc-Ménil. Ils voient les images. Ils écoutent les informations. Et ils ont appris, ils savent ce qui se passe entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe. Ils voient les images, ce qui se passe sur les côtes des Canaries ou en Italie, à Lampedusa, ou à Malte, ou à la frontière libyenne, ou à la frontière algérienne, ou à la frontière espagnole, marocaine. Ils voient tout ça. S'ils habitent au Blanc-Ménil, ou à Lyon, ou à Marseille, ils voient ces images. Tout comme les enfants, les jeunes Français issus de l'immigration du Maghreb voient les images des Palestiniens, voient et entendent les cris de leurs confrères, de leurs frères du sud du Liban. Tout ça circule aujourd'hui. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être indifférents. Il est impossible aujourd'hui d'installer des frontières. On pourra mettre tous les miradors, toutes les clôtures électriques et penser que c'est ça l'avenir. Eh bien non, bien sûr. Les barbelés, ça marche pas. Les barbelés, ça ne marche pas parce que les hommes marchent, parce que le monde est toujours en marche et que toujours les hommes se déplacent, se sont déplacés et se déplaceront d'autant plus que les fossés se creuseront entre les riches et les pauvres et que les inégalités s'accroîtront. Or, nous sommes dans une politique, dans une doctrine de l'inégalité. Avant de réprimer, avant de tirer sur des pauvres gens affamés, il faut savoir pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont arrivés là, quelles sont les causes qui font que ces Africains, ces jeunes Africains, Africaines aussi, on a entendu des témoignages, notamment un témoignage vendredi qui vous a particulièrement frappé. Pourquoi partent-ils? Pourquoi quittent-ils leur pays? C'est les questions que nous nous posons. Un certain nombre ont déjà des réponses. Mais là, cette fois, à Bamako, c'est les habitants de Bamako eux-mêmes et des Africains des pays avoisinants qui sont venus pour se poser cette question et apporter un certain nombre de réponses que Antoine Chao a rapportées, ramenées aussi pour nous.
C'est que la France ne peut pas être le seul pays au monde qui ne puisse décider de qui est accepté sur notre territoire et de qui n'est pas le bienvenu.
Nicolas Sarkozy, pourquoi ton père a fui la Hongrie? Il s'appelle Nicolas Sarkozy, il a inventé l'immigration choisie. C'est l'histoire d'un fils hongrois qui veut se faire couronner chez les Gaulois. Fini l'époque du négro musclé, belle dent. Aujourd'hui, il veut du noir diplômé, intelligent. C'est ça le critère du nouveau négrier qui a le culot d'aller en Afrique pour l'expliquer. Nicolas Sarkozy, pourquoi ton père a fui la Hongrie?
La France n'a pas non plus les moyens d'accueillir tous ceux qui voient en elle un Eldorado.
rentrer chez eux. Ils font trop d'enfants qui foutent le feu. Au cachet ou pas charter, ils nettoient la France. Attention la racaille, 2007 la délivrance. C'est l'histoire de Nicolas Sarkozy, descendant d'un immigré subi. Mais qui croit qu'il a un grand destin? Il a inventé l'immigration choisie. C'est l'histoire d'un fils d'Hongrois qui veut se faire couronner chez les Gaulois. Alors,
dis-moi, Nicolas Sarkozy, pourquoi ton père a fui la Hongrie?
Nous avons le droit de choisir notre immigration.
Pourquoi ton père a fui la Hongrie?
Nous avons le droit de choisir notre immigration.
C'est la sortie de l'école.
Cette jeunesse qui doit être l'avenir du pays, tout le monde veut partir. Et chez nous, par exemple, en Guinée, vous avez le monde entier a suivi le cas de Fode et Yaguine, qui sont montés dans le train d'atterrissage, qui sont morts dans l'avion Sabena. Et tout récemment encore, un autre jeune Guinéen de 16 ans qui est au collège a tenté l'aventure avec Air France. Il a voulu grimper aussi, mais il a été pris sur la piste de l'aéroport. Encore une fois, pour vous dire que les gens, tout le monde veut partir. Et quand vous allez dans les ambassades occidentales, en Guinée, à Conakry, vous trouvez assez de jeunes. Tout le monde veut partir, tout le monde veut quitter le pays. Parce que les gens n'ont pas d'avenir dans ce pays. Si les gens ont une situation stable, à quoi bon de partir? Ils n'iront pas faire de petits boulots en France, aux États-Unis, faire laver les assiettes, faire être agent de surface ou agent de surveillant, travailler 24 heures. Mais depuis qu'on a commencé à parler de réduction de la pauvreté, les gens sont devenus beaucoup plus pauvres. Si je prends le cas de mon pays, la Guinée, les programmes de développement ont presque tous échoué. Maintenant, on nous parle des OMD, les Objectifs Mondiaux de Développement. Mais qu'est-ce que ça va nous apporter réellement? Il faut créer la richesse. Et les richesses existent chez nous. On les prend pour les envoyer ailleurs.
Un réduit de 70 cm, peu d'oxygène et une température de moins 50 degrés en altitude. Autant dire que les chances de survie sont quasi nulles à l'intérieur du puits d'un train d'atterrissage.
Il y a la maman de Fodé qui est là.
Voilà. Elle va parler en soussou et je vais traduire. Quoi.
Voilà. Di medina lu abore tore ne ki fe fangi kwalama se muna famiyira na korogo.
Quand un enfant il observe, quand on a un enfant il observe, et quand on est pauvre il voit ses amis faire de bonnes études, fréquenter de très bonnes écoles, ça lui fait mal au cœur.
Un rêve de gosse, il décide alors de tenter ce qu'avait réussi le 16 janvier dernier un jeune Sénégalais entre Dakar et Lyon, se cacher dans le train d'atterrissage d'un Airbus.
C'est ainsi que les deux garçons ont décidé vraiment de tenter l'aventure pour trouver une situation meilleure parce que leurs parents sont pauvres. Mais dire qu'ils pouvaient partir à 14 ans, je ne pouvais pas du tout imaginer cela. Certainement, c'est cette situation, peut-être qu'il a poussé à tenter l'aventure.
À l'issue d'un voyage bien périlleux dans le train d'atterrissage d'un avion, ils ont trouvé la mort et une lettre pour simple explication.
Messieurs, les membres responsables d'Europe, c'est à votre solidarité et votre gentillesse que nous vous appelons au secours en Afrique. Aidez-nous. Nous souffrons énormément en Afrique. Aidez-nous. Nous avons des problèmes et quelques manques de droits de l'enfant. Au niveau des problèmes, nous avons la guerre, la maladie, la nourriture, etc. Quant aux droits de l'enfant, c'est en Afrique, surtout en Guinée. Nous avons des écoles, mais un grand manque d'éducation et d'enseignement. Sauf dans les écoles privées, qu'on peut avoir une bonne éducation et un bon enseignement. Mais il faut une forte somme d'argent, et nous, nos parents, sommes pauvres. Là, c'est de nous nourrir. Ensuite, nous avons des écoles de sport, telles que football, basket, etc. Donc, dans ce cas, nous les Africains, surtout les jeunes, les enfants et jeunes Africains, nous vous demandons de faire une grande organisation efficace pour l'Afrique pour qu'il soit progressé. Donc, si vous voyez que nous sacrifions et exposons notre vie, c'est parce qu'on souffre trop en Afrique et qu'on a besoin de vous pour lutter contre la pauvreté et mettre fin à la guerre en Afrique. Néanmoins, nous voulons étudier et nous demandons de nous aider à étudier pour être comme vous en Afrique. Enfin, nous vous en supplions de nous excuser très très fort d'oser vous écrire cette lettre en tant que vous, les grands personnages à qui nous devons beaucoup de respect. Et n'oubliez pas que c'est à vous que nous devons plaigner la faiblesse de notre force en Afrique. Écrite par deux jeunes Guinéennes, Yagine Koïta, 14 ans, et Fode Tunkara, 15 ans, qui ont été découverts morts le lundi 2 août 1999 dans le train d'atterrissage d'un avion de Sabena à l'aéroport de Bruxelles National. Je vous remercie.
Merci.
À Bamako, hommage à la mémoire de ces deux jeunes adolescents africains et lecture de cette lettre évidemment bouleversante et qui renvoie à tous ceux qui meurent dans l'espoir d'une vie meilleure entre l'Afrique et le reste du monde, le fameux reste du monde, c'est-à-dire la partie riche de la planète, et qui continue aujourd'hui. Certains sont enfermés littéralement au milieu du Sahara depuis des mois, parfois des années, sans pouvoir avancer ni revenir. C'est une situation évidemment terrible. Mais pourquoi ? Pourquoi ça ? Pourquoi fuient-ils leur pays ? Le Mali est-il un pays naturellement pauvre ? Évidemment pas. Évidemment pas. Il y a des ressources au Mali. C'est ce qui avait attiré certains colons à une certaine époque. Et bien sûr, ces ressources ont été utilisées, exploitées, exportées et nous ont contribué à notre enrichissement et à notre développement. Toute la question, évidemment, de l'Afrique a été la transformation de ces matières premières, dont une grande partie de ce continent a été dépourvue, dépossédée, pourrait-on. Et la rapidité à laquelle sont intervenues les indépendances au tournant des années 60, bien souvent n'ont pas permis la transformation de ces pays en pays modernes. C'est toute l'histoire de la colonisation et l'histoire de la post-colonisation. Et par exemple, le Mali, on l'a évoqué, est un gros producteur de coton. C'est le premier producteur africain de coton. Mais que devient ce coton et comment et pourquoi le Mali, par exemple, ne peut pas exporter, n'arrive pas à exporter son coton et ne peut pas vivre de son coton, au moins partiellement. Voilà une illustration dans un atelier à Bamako où, autour d'une jeune femme qui s'appelle Awa, on travaille ce coton d'une manière artisanale, en faisant des objets à partir du coton, mais conscient de tout le système du coton et conscient d'une des raisons pour lesquelles les Africains quittent l'Afrique.
Il n'y a pas grand monde parce que beaucoup des refoulés participent aux journées commémoratives, c'est ça?
Exactement, donc ce sont les femmes qui sont là aujourd'hui. Et puis Ablaï qui fait du crochet et maintenant des bracelets. Donc nous, les bijoux qu'on fait sont en coton. Parce qu'on essaie de mettre en valeur le coton malien, parce que le Mali est un pays producteur de coton. On ne transforme pas, on transforme très peu le coton qu'on produit. Donc là, on fait des bijoux en coton, des vêtements, des sacs qu'on exporte et qu'on vend à travers le monde. Donc quand les refoulés sont arrivés, on a essayé de les intégrer aux différentes équipes parce que parfois la demande est très importante. Et surtout, ça montre aux personnes qui sont là qu'il y a énormément de choses à faire ici, qu'on n'a pas forcément besoin de partir. Bon, les hommes partent beaucoup plus que les femmes, mais parfois dans les familles, les femmes contribuent aussi au départ des hommes en disant telle personne est partie, a réussi, donc vas-y, toi aussi. Donc c'est bien que la sensibilisation se fasse à tous les niveaux.
Alors, quand tu disais que le coton n'était pas transformé ici, il est exporté vers où alors, en matière première?
Il est exporté vers le nord, justement. Il est exporté au nord et il est transformé, mais le plus difficile, c'est que les prix sont fixés au nord. Les paysans dépendent des décisions qui sont là-bas et ils n'en vivent plus. Le milieu rural aujourd'hui au Mali vit dans des conditions épouvantables. Et c'est pour ça qu'on assiste à l'exode rural et à l'immigration. Donc tout est lié. On grandit avec ça en fait, en se disant là-bas tout est facile. Et on leur dit effectivement le coton c'est de l'or, c'est l'or blanc et c'est ce qui peut nous sauver. Ça ne nous sauvera pas de tous nos problèmes. Mais ça peut contribuer à énormément de choses.
Ça se présente comment le coton? C'est une fibre et vous la tissez ici? Elle est exportée tissée ou elle est exportée?
Ah non, elle est exportée brute. C'est transformé et c'est revendu en Afrique. C'est ce qui est dramatique. C'est-à-dire que le coton brut est acheté à un prix dérisoire. Et quand il est transformé, il est revendu et c'est toujours au détriment du Sud. C'est un marché qui intéresse les Chinois aujourd'hui.
La matière première, donc, qui est transformée en Chine.
La matière est transformée en Chine aussi, mais les Chinois nous renvoient plutôt le nylon, le plastoc, mais vraiment ce que moi j'appelle les déchets modernes. Mais on travaille surtout avec la France. Le coton malien, c'est un peu la chasse gardée de la France. Et là, ils sont en pleine privatisation de la compagnie malienne, de la CMDT. Elle était privatisée en partie déjà, mais là, ils vont tout privatiser. Le côté malien va être privatisé. Le bazin, c'est pareil. Le bazin, c'est cette matière qu'on fait teindre, qui est vraiment un produit du Mali. C'est produit en Hollande aussi. Et les usines hollandaises ne produisent que pour le Mali. Le Mali est connu pour son bazin qui n'est pas produit ici, qui est juste teint ici, mais qui est consommé à travers le monde.
Et la fibre, elle n'est pas forcément malienne non plus?
Pas du tout. Non, c'est pas du tout africain, le bazin.
Mais c'est que la technique
de la teinture. Exactement. Mais la matière ne vient pas d'ici.
Alors, on a entendu dans la bouche d'Awa le mot « privatisation ». On a l'impression que ça ne concerne que nous, les pays développés, les privatisations. Eh bien, pas du tout. Bien sûr, il y a un secteur cotonnier au Mali qui était sous contrôle de l'État. Alors, puisqu'on est en train d'essayer de définir quelques causes, les raisons pour lesquelles ces Africains veulent partir, comme on le dit, et c'est pas seulement le Mali. Tout à l'heure, il y avait un Guinéen qui parlait et qui évoquait la mémoire de ces deux jeunes adolescents. Alors, pourquoi partent-ils? Voilà Taoufik Ben Abdallah, qu'on a entendu dans l'émission de vendredi, qui a donné un éclairage très bref, très concis sur nous-mêmes, sur l'Europe, Est-ce que nous voulons nous enfermer dans cette Europe, l'Europe des barbelés et des miradors? Est-ce que nous voulons considérer que notre prospérité, nous ne la devons qu'à nous-mêmes? Est-ce que nous voulons considérer que nous n'avons aucun lien historique avec 850 millions d'Africains? c'est quand même pas mal. 2 milliards d'Africains en 2050. Est-ce que nous voulons vraiment nous couper, quoi? Voilà, mettre des barbelés autour de notre prairie. Et puis, eh bien, c'est pas seulement immoral, c'est simplement imbécile et impossible. Alors, explication des raisons pour lesquelles, encore une fois, ces migrants migrent, et éclairage sur ces privatisations. Taoufik Ben Abdallah est un spécialiste de recherche internationale, de politique internationale à Dakar, au Sénégal.
Les privatisations, en particulier de certains services, ont un impact direct, d'une part sur la qualité de la vie, et ensuite sur le coût de la vie lui-même. Les privatisations de l'énergie, du téléphone, des transports ou de l'eau, se sont toutes traduites par, d'une part, un accès moindre à ces services, et donc une qualité de la vie moins bonne, et ensuite par des coûts et des prix plus élevés, et donc par une dégradation des conditions de vie, finalement. Mais ça, ce n'est qu'un aspect. Si nous prenons la privatisation, par exemple, du secteur financier, là, l'impact est plus important et plus grave. Pourquoi ? Parce que tout le système financier, aujourd'hui, il est détenu par des banques qui privilégient le court terme, le spéculatif, au détriment du financement de l'activité économique elle-même. Sachant que dans un pays comme le Mali, mais aussi dans toute l'Afrique de l'Ouest, les activités économiques sont surtout le fait de petits acteurs, de petites entreprises, quelquefois familiales, et de petites et moyennes entreprises. Eh bien, ces gens-là n'ont plus accès au financement. Tout ce que les banques financent, ce sont les activités commerciales classiques, le bâtiment, travaux publics, la construction, et le crédit de campagne agricole, ou la commercialisation de certains produits agricoles. Or, l'activité économique, en particulier urbaine, mais aussi celle qui relie le rural et l'urbain, sont le fait de petites gens, si je peux dire, qui n'ont pas accès au financement et qui donc se trouvent dans des situations de désespoir, il faut le dire, hein, sans aucun appui pour mener des activités qui les aident à se prendre en charge et à prendre en charge les besoins de leur famille. Si on met ensemble tous ces effets en termes de dégradation de la qualité de la vie, de l'environnement, y compris de l'environnement proche dans lequel on vit, et je fais référence aux questions d'assainissement, etc., tout ceci implique une perte d'espoir, une perte de perspective, une perte de confiance dans ses propres institutions, une perte vraiment de rêve, si je peux dire, ou d'espoir, modestement, de voir sa situation s'améliorer, ou de voir la situation de ses enfants progresser. Et je pense que c'est finalement tout cela mis bout à bout qui fait que les gens n'ont plus envie de rester sur place et ont envie de partir. Si à côté de tout cela on ajoute les effets extrêmement néfastes, inéquitables, injustes, iniques des accords commerciaux internationaux, auxquels il faudra ajouter les effets attendus des zones de libre-échange qui sont en train de se définir entre l'Union européenne et les pays ACP, eh bien, il y a lieu de penser que les phénomènes migratoires vont s'accentuer et il sera inacceptable de voir les mêmes hypocrites d'aujourd'hui nous refaire le même coup demain en chantant encore la chanson du développement, en chantant la chanson de l'aide publique au développement, en chantant la chanson des chefs d'État africains pourris et corrompus. Non, je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs de la société civile africaine ont compris que ça ne peut plus se passer comme ça. Cette question migratoire, elle est de la responsabilité de tout le monde.
Si Sur le sable des tisanes, nous avons été menés comme une cargaison. Aucune chance pour nous misérables, car la souffrance était la seule rançon. Démunis, affamés dans ce désert où le mouton se nourrit du carton. Yeah, yeah, hey. La garantie de survie était d'avoir une espérance en béton.
C'est l'Europe néolibérale qui a pris la place de l'Europe coloniale, quoi.
Oh, absolument. C'est l'Europe néolibérale, c'est l'Europe qui veut disputer aux États-Unis sa politique hégémonique. C'est l'Europe qui veut que les autres pays soient des marchés, dans un premier temps des colonies, après des lieux où on puise des matières premières et une main-d'œuvre, et après, eh bien, tout simplement des marchés qui ne doivent plus exporter leur main-d'œuvre, mais seulement être des réceptacles de produits et marginalement des réceptacles d'investisseurs européens, et point à la ligne. Mais cela est totalement inacceptable. Fondamentalement, il n'est pas de l'intérêt de l'Afrique. Il n'est pas si certain que c'est dans l'intérêt de l'Europe. Il n'est pas certain que c'est dans l'intérêt de l'Europe. C'est en apparence compatible avec une certaine idée du marché, mais qui, à la longue, est créatrice de désastres humains chez les autres, et peut-être demain en Europe même, qui est créatrice de pauvreté. Et il ne faudra pas venir pleurer que des hommes et des femmes vivant dans cette pauvreté veuillent un jour venir dans cette Europe. Ils viendront de gré ou de force.
J'accuse la France de crimes contre l'humanité. Trop de morts en Centrafrique, je ne pourrais pas les oublier. Vous oubliez, un peu trop vite, tous les tirailleurs sénégalais. De force enrôlée, déportés, aujourd'hui expulsés. Ils sont venus, ils se sont battus, ils ont vaincu. Votre pays détruit, ils sont revenus et ils ont reconstruit. Ils sont venus, ils se sont battus, ils ont vaincu. Votre pays détruit, ils sont revenus et ils ont reconstruit. J'accuse aussi la France d'irresponsabilité devant l'histoire. Trop de coups d'état en Afrique sont commandités par eux dans le noir. Aux Comores, au Dahomey, au Congo, au Rwanda, je m'arrête là. Mais la France fait trop de dégâts. C'est pour ça que j'accuse Giscard d'être un complice de Bokassa. Bokassa paye sa dette, Giscard est libre, et pourquoi ça? J'ai dit que la France est très ingrate quand elle parle de visa. Quand nos pères sont partis mourir pour elle, y'avait pas de visa. Non, y'avait pas de visa. J'accuse toute l'Afrique d'irresponsabilité chronique. Nos présidents, nos dirigeants d'être égoïstes et cyniques. Ils veulent du pouvoir, encore du pouvoir, tout le pouvoir. Une fois au pouvoir, promet des choses sans le pouvoir. Ils ont vendu l'Afrique, ses richesses et même ses plages. Ça signe des pailles, des accords, est-ce qui m'enrage? Quand tu vas dans une banque, si elle est bien, c'est qu'elle est étrangère. Tu te crois indépendant, rêve, c'est le colon qui gère. Gère même la monnaie dans les coffres de la Banque de France. Gère même notre or dans les coffres de la Banque de France. Voilà pourquoi on dévalue, voilà pourquoi moi j'évalue. Mes chances à zéro. Je me libère et j'évolue. Je continuerai bien de les accuser encore pendant des heures. Mais c'est pas ça qui changerait quoi que ce soit à leurs erreurs. Mon but est d'éveiller les consciences, provoquer des réflexions. Histoire que toi et moi, on trouve des solutions. Ce texte est donc la plainte d'un prolétaire qui est exploité. Ce texte est écrit avec le sang des oppressés. Ce texte est gravé sur la pierre tombale d'un opprimé. C'est consigné, j'arrête ici, ma plaidoirie. Mais ici même dans la salle, je vois encore la hyène qui rit. Je vois encore la hyène qui rit.
Oh là, la hyène qui rit dans la salle. Impressionnant. Impressionnant aussi le fait que, si je veux, là, moi, qui vous cause, je peux partir pour le Sénégal, sans aucune formalité, sans visa. Je peux aller visiter, me balader au Sénégal et revenir sans aucun visa. Ce qui n'est pas du tout le cas d'un Sénégalais qui voudrait me rendre visite. Il va falloir qu'il montre patte blanche, l'ami sénégalais, pour venir dans le beau pays des Gaulois. Pourquoi cette inégalité? On essaye de mettre en lumière quelques raisons. En voici d'autres. On en a souvent parlé. C'est la dette, la fameuse dette. Allons-nous comprendre un petit peu comment fonctionne cette dette? Comment elle a été contractée? Comment elle est remboursée? Comment l'on fait croire qu'elle a été abolie ou supprimée? Mais ça n'est que partiel. Il en a été évidemment largement question lors de ce récent forum à Bamako.
Cette dette a été contractée dans des conditions absolument inacceptables des dictateurs qui l'ont utilisée pour opprimer leur peuple. Et aujourd'hui, on demande à ce peuple qui n'a pas bénéficié de cette dette de la payer. Et nous pensons que donc c'est tout à fait scandaleux. Et l'illustration peut-être la plus tragique est la RDC, la République démocratique du Congo, où un dictateur pro-américain qui a été mis au pouvoir par la CIA, Mobutu, pendant 32 ans a pillé ce pays avec la complicité des dirigeants occidentaux. Et aujourd'hui, on demande au peuple de la RDC de payer une dette illégitime. Et c'est pour cette raison que nous nous battons pour l'annulation inconditionnelle de la totalité de la dette de l'Afrique. Parce qu'elle est illégitime et nous considérons qu'elle a été déjà payée. Parce qu'on nous a tellement pressurés par les remboursements du service de la dette, les programmes d'ajustement que la Banque mondiale et le Fonds monétaire ont imposé à l'Afrique pour pouvoir rembourser la dette. Des programmes qui nous ont coûté excessivement cher. Et nous pensons que si on met tout cela ensemble, nous avons payé plus que ce que nous devions pour une dette illégitime qui n'aurait jamais dû être payée.
Donc si on revient sur l'exemple de la RDC, on fait assassiner des gouvernants qui ont une optique socialiste, hein, c'était Lumumba. Donc,
exactement, exactement. Éliminés par les Américains, les Belges, les Français et autres, parce que tout simplement, ils voulaient préserver les intérêts de son pays. Et voilà, aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus pauvres. Là où les gens meurent de faim, de soif, de tout, alors qu'ils sont assis sur de l'or. Et ce n'est pas seulement le Congo. Je peux vous parler du cas du Mali, où le Modibo Keïta a essayé de mener une politique nationaliste, où l'État a commencé à construire des usines, où il a essayé de reprendre la souveraineté de son pays sur un certain nombre de ressources. Ils ont emmené un militaire pour faire un coup d'État. Et pendant 20 ans, ce militaire a pillé. Il a fallu la révolte de 91, au cours de laquelle on a tué des centaines d'étudiants, pour que le régime change. Je peux vous parler du cas des colonies portugaises. Tamura Machel au Mozambique, pendant la Ligue de Libération, ont été assassinés. Mais heureusement, il y avait une relève. Mais je peux vous parler de la Guinée-Bissau, où Amilcar Cabral avait été assassiné par les Portugais. Thomas Sankara, au Burkina, qui éveillait des consciences, qui voulait que ses compatriotes se mettent au travail et essaient de se prendre en charge, de prendre leur destin en main. On l'a assassiné pour le faire remplacer par l'assassin actuel Blaise Compaoré, qui est aujourd'hui l'ami de Jacques Chirac et des autres. Donc voilà quelques exemples que je vous donne qui illustrent comment les pays développés mènent leur politique en Afrique, non pas dans l'intérêt, bien sûr, des peuples africains. Le discours officiel vous dira, nous les aidons, nous aidons l'Afrique à se développer contre la pauvreté, alors qu'ils font tout au contraire pour l'aggraver et pour la perpétuer, en mettant en place des dirigeants dociles qui veillent aux intérêts des Occidentaux contre les intérêts de leur peuple. Et c'est après que le Fonds monétaire et la Banque mondiale sont venus. C'est les porte-parole de l'ensemble de ce système. Et les jeunes qui sont là, qui sont désespérés, qui ne peut plus aller à l'école, qui ne peut plus trouver du travail. L'État est faible ou n'a pas assez de moyens pour faire face à cette situation. Qu'est-ce qu'il leur reste? C'est de tenter l'aventure. Et quand ils sont au pied du mur, ben, c'est des choses tragiques qui se passent comme à Ceuta et Melilla il y a un an, ou ce qu'on constate ces jours-ci sur les côtes sénégalaises ou autres, ou aux îles Canaries, des jeunes qui vont tenter l'aventure. Certains d'entre eux meurent en haute mer, d'autres meurent d'épuisement avant d'arriver, etc. Et c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est le résultat de la trahison des dirigeants africains et des politiques imposées par les pays occidentaux, soit directement dans les accords bilatéraux, soit indirectement par l'intermédiaire de la Banque mondiale et du FMI.
Ainsi parle Dumbo Moussa Tembélé, directeur du Forum africain des alternatives. Il a été question de Thomas Sankara. Et je rappelle une phrase fameuse de Thomas Sankara, c'est dire, en s'adressant aux Européens, aux riches, aux pays riches, il disait « Donnez-nous une aide qui nous aide à nous passer de votre aide ». Et la raison pour laquelle on est allé Antoine Tchao est allé à Bamako, c'est quand on avait rencontré Aminata Traoré au musée du Quai Branly. Elle nous avait parlé de ce projet, de ce forum, et elle nous a dit notre but, c'est de faire comprendre aux jeunes, à nos jeunes Africains, pourquoi ils partent, les raisons qu'ils ont de partir. On peut très bien faire quelque chose sans toujours savoir, évidemment, les raisons pour lesquelles on les fait. Il a été question de la haute mer. Nombreux sont aujourd'hui ces jeunes Africains qui quittent par la mer, par des embarcations de fortune, les côtes de leur continent pour tenter d'entrer en Europe par les Canaries. Et on a parlé des pêcheurs aussi. Ces pêcheurs qui sont dépossédés de leur moyens de vie à cause des déréglementations à l'échelle mondiale. Voilà un de ces pêcheurs devenu passeur.
Hassan Diop, capitaine, propriétaire de pirogue, pêcheur. Dans le monde, il y a des problèmes parce que Guédji, là, il y a des problèmes à mon avis.
Je rencontre beaucoup de problèmes parce que ce qu'il y avait comme stock de poissons n'existe plus aujourd'hui en mer.
Parce que yag nañu wax né nañu arrêter bateau yi ñi signé avec l'Union européenne muy accord de pêche.
Nous avons longtemps décrié les accords de pêche avec l'Union européenne et préconisé une gestion durable des ressources halieutiques.
Mais suñu gouvernement dañu tankam lu deglu wuñu won ñu tok ba tay bo gisé immigration grande séyam.
Mais nos gouvernements, hélas, ne nous ont jamais écoutés, ne se sont jamais préoccupés de cette gestion durable des ressources. Et le résultat aujourd'hui, c'est les jeunes qui partent vers l'Espagne.
L'immigration, quand les pêcheurs sont en train de se faire, parce qu'ils sont en train de se faire,
Il dit, les immigrés clandestins dont on parle, la plupart du temps, ce sont les pêcheurs qui organisent cela. Ils prennent leur pirogue, ils mettent dedans des immigrés, on leur paye, parce que justement, le travail de pêche n'est plus rentable.
Et c'est Guédji, pêcheur, surtout pêcheur sénégalais. Nous savons Guédji, parce que quand on a dans le gal ou l'embarcation, on a navigué en Espagne, et on a fait l'Espagne. Les pêcheurs, le vrai pêcheur.
Les marins sénégalais sont d'excellents marins qui connaissent très bien la mer. Et vous savez, ce n'est pas n'importe quel marin qui peut aller jusqu'en Espagne avec une simple pirogue. Mais la connaissance de la mer des marins sénégalais a fait qu'ils organisent ces immigrations pour gagner leur vie.
Parce que, de façon Galil, il y a 80 personnes qui naviguent ici, qui dembe sans appareil. Il y a des gens qui sont bas, il y a des gens qui sont GPS, qu'est-ce qu'ils naviguent en Espagne, île Canaria.
On n'a pas beaucoup d'instruments de navigation. Pourtant, avec les pirogues sénégalaises, on embarque 80 personnes et on va jusqu'en Espagne avec simplement un GPS, un géopositionnaire par satellite.
Le jour est à peine levé et ils sont déjà des dizaines dans les rues de ce village andalou. Maliens, Sénégalais, Roumains, tous sans papier. Tous à guetter des fourgonnettes comme celle-ci. Au volant, le patron d'une des serres de la région. Monter à ses côtés, c'est une journée de travail assurée. Sous ces milliers d'hectares de plastique, la main-d'œuvre est surexploitée, 35 euros par jour. 10 000 clandestins qui vivent dans ces taudis, sans eau ni électricité. Comme ces Marocains, ils sont venus dans l'espoir d'une vie meilleure, mais la désillusion est cruelle.
On a immigré ici pour améliorer notre situation, mais on ne trouve rien. Il n'y a rien. Sous le mot le doute et la famine, tous les immigrants ici souffrent.
Tant de souffrances humaines, tant d'humiliations, dans le contexte actuel, ne se comprend que par rapport à l'échec d'un modèle économique imposé aux Africains sans qu'ils en maîtrisent les rouages. Parce que c'est une forme nouvelle d'émigration. Les flux partent. Non pas seulement des zones traditionnelles de départ vers l'Europe, toute l'Afrique de l'Ouest, pratiquement, chaque pays est touché. Chaque pays est touché, c'est des jeunes de 25 ans, comme ceux qui ont l'âge, précisément ceux-là qui se sont élevés contre le CPE. Alors nous, la question que nous nous posons au niveau du Forum pour un autre Mali, Et pourquoi l'Europe se prive des moyens de comprendre les conséquences de ces politiques qu'elle a elle-même exportées et imposées? Le capitalisme, en changeant de visage, en devenant un capitalisme mondial, planétaire, à d'autres exigences, que les États européens ne soient plus en mesure d'aider, entre guillemets, mais qu'ils veuillent prendre davantage, parce que c'est les multinationales qui comptent, parce que chaque État européen roule pour ses multinationales. Et que dans cette course folle au profit, qu'ils écrasent les Africains, qu'ils nous dépouillent du peu qu'on a, en nous mentant, en racontant des histoires quant à la lutte contre la pauvreté, ça saute aux yeux, quoi. Les départs sont dus à un chômage massif et chronique. Ces départs suicidaires sont à la dimension du drame du chômage. Un chômage dû à l'ouverture forcée de l'Afrique à un marché déloyal. C'est simple comme bonjour. Mais l'Europe refuse de lire, de diagnostiquer ce phénomène sous cet angle. C'est tellement plus facile d'humilier quand ils savent parfaitement qu'en fait elle est victime, l'Afrique est victime de ses richesses. Et ces gosses-là, ils sont tout simplement les victimes de cette hypocrisie. On n'est pas sorti de l'auberge tant que nous ne jouerons pas de part et d'autre la carte du courage politique, de la vérité et de la justice.
Merci à tous, merci à Aminata Traoré, merci à Mauricio Valiente, Taoufik Ben Abdallah, Awa Dembo, Moussa Dembélé, Ibrahim Assona Diallo, Hassan Diop, Ali El Kaidar et Tchèque Tidiane, et à tous ceux qui ont participé à ce forum. C'était un reportage d'Antoine Chao. Évidemment, 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 à voir le film d'Abderrahmane Sissako, Bamako, précisément, et qui aborde pas mal des thèmes qui ont été abordés au cours de ce forum. Et puis aussi à signaler l'exposition Frontières du 3 octobre au 4 février prochain au Muséum à Lyon, 24 boulevard des Belges. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission pendant 24 heures, ou bien sur le site là-bas.org, là-bas.org, vous pouvez réécouter l'émission indéfiniment, ainsi que des centaines d'autres numéros de là-bas, si j'y suis. Technique aujourd'hui, Éric Morin et Olivier Daligo. C'est Yann Chouquet et Koyen Guyen qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Pascal Yello de Christophe Imbert pour le répondeur de le numéro 01 56 40 37 37 et le mail de l'émission c'est daniel.mermet@radiofrance.com. et puis je vous l'ai déjà dit, mais enfin je vous le redis, lundi prochain, le 30 octobre, nous partons vers l'Afghanistan. On va, 5 années après, 2001-2006, on retourne en Afghanistan où les talibans sont de retour, où le pays sombre dans un chaos qu'on ne souligne peut-être pas tout à fait assez, étant donné qu'on est complètement braqué sur ce qui se passe en Irak, qui n'est pas mal non plus, mais l'Afghanistan promet. Pub.